Les pieds sur terre, Sonia Grönlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Dans les milieux favorisés, chez les bons élèves, le baccalauréat semble être devenu une formalité. Les étudiants sont recrutés sur dossier bien avant de connaître les notes du bac. On se soucie un peu de la mention, mais avec un taux de réussite globale de 90,5%, toutes filières confondues, ce ne serait plus vraiment un enjeu. En réalité, pourtant, dans les milieux populaires, pour les élèves les plus fragiles ou ceux qui sont empêchés, c'est une toute autre histoire. En dessous de chez moi, par exemple, il y a, comme on dit, une boîte à bac. Des parents de tous les milieux se saignent aux quatre veines pour y envoyer leurs enfants. Et chaque 4 à 5 juillet, c'est la même scène que je vois depuis ma fenêtre, sur le trottoir, où les résultats sont affichés. Il y a ceux qui baissent la tête en silence et repartent une boule au ventre. Celles et ceux qui hurlent « je l'ai » et dont les cris transpercent toute la rue. Ceux qui se sautent dans les bras comme dans les séries. Il y a des pleurs en tout genre, des parents dignes mais émus. Et moi aussi, comme une gourde chaque année. Dans la vraie vie donc, le bac, c'est quelque chose. Un sésame, un synonyme d'égalité, un gage de sens, un accomplissement. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de deux femmes qui l'ont passé ou repassé bien après l'âge prévu et on a vu l'effet que ça leur a fait. Passe ton bac senior, c'est un reportage de Sophie Simoneau.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Aurore, j'ai 42 ans, j'habite près de Brest. Alors, je suis née sur Nancy, en Lorraine, donc je suis l'aînée d'une fratrie de trois, et j'ai grandi donc sur la Moselle jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, nous sommes allés vivre dans le Nord-Pas-de-Calais, tout près de Lens, avec mes parents. Et du coup, on est parti de l'Est de la France parce que mon papa a perdu son entreprise qu'il avait créée. Donc mon papa était toute sa carrière menuisier-charpentier et puis ma maman à ce moment-là était maman au foyer. Donc on est parti en ayant tout perdu. La maison a été saisie, donc tout a été saisi. Hein. J'ai bien vu mon papa dans la peine et du haut de mes 11 ans, ça laisse un peu un goût amer. Mais bon, nous sommes arrivés dans le Pas-de-Calais, nous avons été accueillis par la famille et puis on a rebondi. Mon papa a trouvé du travail et ma maman est devenue assistante maternelle. Alors, arrivée là-bas, j'habitais dans un petit village en Meurthe-et-Moselle. Là, je me retrouvais dans une ville avec un accent. Le Pas-de-Calais, vous connaissez un peu l'accent avec... C'est assez particulier, donc j'étais un petit peu perdue et je n'étais pas comprise parce que j'avais un accent lorrain. Et j'ai senti comme un rejet. De par mon accent, ça m'avait complètement scié. Dès le départ, je ne voulais plus prendre la parole. Il y a eu des moments difficiles. Et les copains, les copines, même les professeurs, quelquefois, n'ont pas été tendres. Et puis les notes ont dégringolé. Et puis les appréciations m'ont fait mal aussi. Donc j'étais incapable, que je n'irais pas loin dans la vie. Aurore ne produit pas assez d'efforts, ne participe pas à l'oral, alors que j'étais extrêmement timide. Ce qui fait qu'à l'école, je me suis mise en repli, à l'écart. Les notes ont commencé à se dégrader, enfin vraiment la chute libre. Et puis j'ai décroché. Et ça a été très compliqué, l'école à partir de là. Ça a laissé des blessures. Alors les parents, ils se positionnaient par rapport à ce qu'ils lisaient, parce que dans leur génération, le professeur, il sait tout, et pour eux, c'était de ma faute, je ne fournissais pas assez d'efforts. Et c'est comme ça que je me suis effacée l'idée de faire des études. À l'époque, j'aurais voulu faire médecine. J'aurais voulu parcourir le monde et sauver tous les enfants du monde. J'étais toujours émue de ces images en Somalie. Je suis de 1979, donc on voyait quelques images à la télévision de tous ces enfants vivant dans la pauvreté. J'arrivais pas à concevoir qu'on puisse, du haut de mes 9, 10, 11 ans, qu'on puisse laisser des enfants sans soutien, sans... Donc oui, j'aurais voulu être médecin sans frontières, ouais, ça m'aurait plu. Donc j'ai commencé un petit peu à aller à la bibliothèque et regarder les différents métiers. Et vers 15-16 ans, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire être soignante, je veux travailler à l'hôpital, parce que je pourrais pas aller partout dans le monde, mais au moins je pourrais travailler dans différents services. Donc je dis, je veux devenir aide soignante. Donc à l'âge de 17 ans, j'ai eu le CAP petite enfance. Et puis à l'aube de mes 18 ans, mon BEP sanitaire et social. Donc du coup, j'ai eu un avis très favorable pour le bac. Sauf que j'ai senti qu'à la maison, c'était difficile au niveau finance et qu'il aurait été bien que je travaille et que je puisse aider la famille. Donc j'ai entendu une conversation et puis je me suis freinée en fait sur ma position de continuer sur le bac. Cette conversation, je l'entends un soir après le repas, alors que j'avais oublié mon sac au rez-de-chaussée, je passe au rez-de-chaussée et je les entends discuter. Aurore va bientôt avoir 18 ans, ça va diminuer au niveau des allocations familiales, bien sûr. J'ai entendu sur endettement, comment on va faire, ça va être compliqué, je veux pas revivre, ma maman pleurait au moment-là. Ça va être compliqué, on nous a déjà tout pris, mon papa a essayé de la réconforter. Ça serait quand même bien qu'elle puisse nous aider. Donc, j'ai pas relevé, Ils ont dû voir que j'avais compris et que j'avais entendu, et puis je suis allée me coucher, mais ça m'a travaillé, oui. J'ai eu beaucoup de peine pour eux, parce que, malgré tout, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Mais j'étais un peu dans la colère, parce que j'étais partagée entre... Je savais que j'aurais pu y arriver... Et puis, j'étais en colère contre le monde, finalement. Mais à l'époque, mon père travaillait dans le bâtiment et il passe du carrelage à la charpente, de la charpente à la rénovation, et il touche à tout. Mais le salaire est quand même pas à la hauteur de ses attentes. Ça couvre pas toutes les difficultés, finalement. Donc, il enchaîne des heures, il fait même du noir à côté, on le voit pas, on le voit plus. Il est fatigué, il fait une alerte, donc un infarctus. Je me disais que je pouvais pas les voir revivre ce qu'ils avaient vécu. J'avais l'impression de leur devoir aussi le fait que, j'ai eu un toit, j'ai eu une éducation, j'ai eu toujours eu quelque chose dans l'assiette malgré les difficultés. Donc, je me devais aussi de rendre l'appareil aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis mise au travail, rapidement. Alors, à l'époque, je commence du coup par la psychiatrie de nuit. Et pour une douzaine de nuits, je me dis, oh, dis donc, quel salaire! Je suis fière d'aller montrer le salaire à mes parents. Ils sont scotchés parce que j'aligne presque le même salaire que mon père. Donc là, un coup au cœur aussi, quoi. Parce que presque son diplôme, finalement, j'atteins pratiquement son salaire, quoi. Bon, après... Ça m'a un petit peu effrayée, la psychiatrie. J'ai pas renouvelé l'expérience. Mais bon, j'ai dit, je préférerais passer mon BAFA, finalement. C'est plus gai, c'est plus... Tant que tu travailles. Donc, je passe mon BAFA. Ah, c'est plus sympa, les colonies, les centres de loisirs. C'est sympa, comme tout. Et puis, le salaire est vraiment sympa aussi. Je peux aussi garder un petit peu pour moi. Et là, ça y est, quoi. J'ai un petit peu d'argent, donc je peux vadrouiller. Et puis après, j'ai eu l'envie de retourner sur Nancy. Pour retrouver mes amis d'enfance, la région, la famille. Donc je suis partie en Lorraine. Et puis, c'est là que j'ai rencontré mon mari. J'arrive au mois de mai. Pour faire le centre de loisirs sur Nancy, donc dans le village où ma marraine habite. Et je rencontre le directeur du centre de loisirs. Et il deviendra mon mari, finalement. On se quitte plus, quoi. On fait le centre de loisirs ensemble. Il me touche assez dans son parcours. Et puis, lui aussi, il est comme moi. Il est issu d'une famille nombreuse, avec ses aléas et ses difficultés. Et donc, on se retrouve bien, finalement. Et voilà, c'est parti. Et lui... il a un appel de l'armée, parce qu'il était réserviste, et il rentre au service santé des armées de Metz. Donc voilà, moi je deviens agent de service, et lui, il rentre à l'armée. Je démarre d'en bas, avec un mi-temps, sur l'hôpital de Nancy, en tant qu'agent de service au bloc opératoire, donc je faisais tout ce qui était hygiène, hein, à nettoyer les blocs opératoires et les sanitaires. C'est le premier poste que vous pouvez avoir sans diplôme au sein de l'hôpital. Donc je ramène à peine 500 euros, c'est pas énorme quoi. Et puis bon, ben Alex, lui, il a un contrat. De son côté, c'est plus sécurisé, donc il a un petit salaire et puis bon, on y arrive bien quoi. Puis on n'est pas dépensier, on connaît la valeur de l'argent, donc on fait pas de folie. Tant pis, on n'a pas de meubles, mais au moins on n'a pas de dettes. Et puis avant le mariage, arrive le premier enfant. Premier enfant et les premières difficultés de maman et les horaires atypiques, parce que je suis toujours à 5h du matin à me lever et emballer mon bébé dans sa petite coque avec plein de neige, la voiture a déneigé, mais on y croit, je continue à travailler au sein de l'hôpital en tant qu'agent de service toujours. Et arrive le second enfant et là se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup quand on fait le calcul des frais et de ce que vous gagnez en tant que femme, ben, vous avez vite fait le tour, quoi. Donc, je me mets en congé parental. Et finalement, je me suis dit, bon, il y a une idée qui me trotte. Donc, je me dis, ok, je m'arrête pour les enfants. Par contre, je veux une famille nombreuse. Ah, moi, je voudrais 3-4 enfants. Donc, je décide, en accord avec mon homme, d'avoir plus que 2 enfants. Et finalement, en 6 ans, j'ai eu mes 4 enfants. Donc, je me suis posée pendant... 6 ans. Mais la 5e année, j'ai dit, Alex, n'oublie pas que je dois reprendre des études. Il dit, non, mais t'es sérieuse, avec 4 enfants, tu te sens? Il me dit, par contre, je te suis. Il dit, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Je repars en opération, je te bloque l'argent, là, tu l'auras, cet argent. Et le soir, je gratte, je travaille, j'ouvre les bouquins, je me prépare au concours. Et j'obtiens le diplôme et je travaille enfin en tant qu'aide-soignante au bloc obstétrical de l'hôpital d'Orléans. C'était il y a 8 ans, en 2014. Donc là, je me dis, bon, allez, ça fait quelques années que tu es aide-soignante, tu peux peut-être prétendre faire le concours d'auxiliaire. Et puis j'entends parler de cette... seconde chance, ce bac pour les adultes ou les moins jeunes hein, qui n'ont pas eu le... réussite au bac, donc je dis tiens, pourquoi pas le tenter en même temps. Après tout, j'ai eu mon CAP, j'ai eu mon BEP, j'ai eu mon BAFA, j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante. Peut-être je vais avoir mon diplôme d'auxiliaire et peut-être que j'aurai mon bac finalement. Et puis j'approche 40 ans, on verra bien. J'y vais un peu comme ça, je me dis pourquoi je pourrais pas prendre un peu de risque finalement. Et du coup, je m'inscris au premier examen pour voir si vous avez le niveau. Ben, j'ai déjà, s'ils me disent que j'ai le niveau, vous voyez, j'avance comme ça à tâtons. Et là, on me dit que j'ai le niveau. Waouh, j'ai le niveau pour aller au bac. Ça me fait chaud au cœur, je suis émue, j'ai les émotions qui montent, mais j'en reviens pas. J'ai peut-être ma place sur les bancs de l'école pour passer le bac. Donc allez, je vais le tenter, j'ai rien à perdre. Donc je réussis le concours d'auxiliaire. Je rentre en école d'auxiliaire de périculture sur Brest la journée, donc je vais à l'école la journée. Et le soir, je me retrouve pour la première fois de ma vie dans un amphithéâtre. Et là, l'émotion. Oh, je suis à la fac. Waouh! Quelle émotion! Enfin, jamais je n'y aurais pensé. Enfin, j'avais l'impression d'être à ma place. Comme si ça avait mis du temps. J'avais pas peur, j'étais excitée, j'avais envie d'apprendre, c'était les cours du soir et je vais retrouver les professeurs. Un peu peur aussi de retrouver certains professeurs qui m'ont laissé des marques, puis finalement, rien qu'à écouter le professeur qui est en face de moi, là, qui me dit « vous êtes pas là par hasard ». Et quand je l'entendais parler, tous ces mots-là me touchaient en plein cœur, je me disais « mais... oh, waouh, des profs qui comprennent notre parcours, nos blessures, nos ambitions, nos peurs. Mais oui, en fait, je vais y réussir. » Donc voilà, je vais en cours tous les soirs. J'essaie d'enchaîner parce que quelquefois, je suis en stage aussi. Hein. Il y a les horaires atypiques de l'hôpital. Donc je termine à 22h le soir. Il y a des cours que je loupe, mais que je rattrape. Et puis, il y a aussi cette pandémie qui nous tombe dessus. Donc les cours en visio, les devoirs perso. Alors ouais, pendant cette période, il y a aussi les enfants à la maison. Donc un PC pour 6, vous imaginez bien. C'est alors ok, mais maman aussi elle a visio là, hein, donc j'ai visio avec Monsieur Cariou, hein, j'ai des devoirs à rendre, donc et là, oups. Et puis chacun s'organise la petite vie de famille, et puis de voir dans les yeux des enfants de maman, vas-y, hein, on te laisse tranquille, et tout se passe à merveille. Tout le monde a sa petite place, mon mari qui me soutient, et je l'ai eu. Alors là, par contre. Voilà, je l'ai eu il y a pas longtemps, puisqu'avec le Covid, on a eu la remise des diplômes au mois de, juste avant les fêtes. Mais ce qui est touchant, c'est que là, on a eu notre remise de diplôme. Et ça, ça fait quelque chose. Voilà, j'ai fondu en larmes. C'est 3-4 heures après, j'avais encore le diplôme dans les mains. Et mes enfants, ma grande pleurait. Elle m'a dit, maman, tu peux être fière. Puis de voir la fierté dans les yeux de ses enfants, c'est très touchant. Parce qu'ils ne savent pas par quoi on est passé, on ne leur dit pas tout. J'ai repensé à tous ces moments difficiles, plus jeunes. Ah mais là, vous voyez, là, je l'ai eu en fait. Vous m'avez dit que je n'étais pas capable, que je n'irais pas loin dans la vie. Vous êtes trompé sur mon compte. Finalement, je n'étais pas si bête que ça.
Je m'appelle Réjeanne, j'ai 53 ans, j'habite à Paris. Quand j'étais jeune, j'étais une très bonne élève et mes parents avaient vraiment à cœur de faire en sorte que j'aille dans les meilleures écoles ou les meilleurs lycées. Ma mère, elle a d'ailleurs fait des pieds et des mains. On habitait Thiers. Elle considérait que le lycée de Thiers, après le collège, n'avait pas un niveau suffisant, donc elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a réussi à me faire atterrir au lycée Lacana à Sceaux. De la seconde à la première à la terminale C, alors que je suis pas super bonne en maths. Mais mon père était ingénieur électronicien. Il est le premier de son village à avoir eu le bac. Et ma mère, du village d'à côté, en Anjou, pareil, a pas suivi le destin tout tracé des jeunes filles de cette époque. Elle s'est battue pour pas juste rester à la ferme. Et pas mes grands-parents maternels avaient une ferme. Elle est devenue secrétaire. Donc, j'avais un environnement de travail et un soutien familial qui fait qu'en fait, même en n'étant pas très bonne en maths, j'ai très bien réussi ma terminale C. Et le bac, c'était un peu obligatoire. Le jour où j'ai eu le bac, bien sûr, j'étais fière d'avoir au moins accompli ça et d'avoir un peu coché cette case, ce qu'on attendait de moi, quoi. Après le bac, j'ai intégré une école de commerce à Subdeco Amiens. À cette époque-là, moi, j'adorais l'anglais et j'avais très envie d'aller voir ailleurs, en fait, de me balader. Alors, je suis partie, j'ai fait tout mon dernier semestre au Canada, à HEC Montréal. Et quand je suis rentrée, j'étais en stage chez Estée Lauder. En fait, je m'occupais de négocier des emplacements dans les parfumeries pour que les marques du groupe, elles aient un endroit où on les reconnaisse. Donc on allait mettre le logo de la marque, on allait mettre un visuel lumineux. Ensuite, j'allais en atelier avec les fabricants, faire fabriquer les meubles. Et mon premier meuble, j'avais mal pris les cotes, il n'est pas rentré. Voilà, enfin, donc c'était mon premier boulot, en fait, qui combinait le fait d'être sur le terrain, d'aller mesurer des emplacements dans des parfumeries, me balader partout en France, d'aller à La Rochelle, inspecter toutes les parfumeries de La Rochelle et de pouvoir en même temps, le midi, bouffer des langoustines sur le port. Je me disais, non mais c'est cool en fait, la vie d'entreprise. À la fin de mon stage, j'avais même pas encore mon diplôme de Subdeco qui m'ont proposé de m'embaucher. Donc je suis restée. Et ça m'a amenée à devenir responsable visuel merchandising et du store design dans cette filiale française d'un grand groupe américain. Et petit à petit, j'ai fait une carrière comme ça dans le groupe Estée Lauder, en partant de stagiaire jusque vice-président visuel merchandising Europe. Voilà. Et ça a duré 27 ans.
«
J'ai beaucoup aimé mon travail pendant toutes ces années parce que c'était tout le temps du positif. La boîte avait du succès, les marques pour lesquelles je travaillais se développaient, les produits étaient sérieux. Il y avait une fierté aussi de représenter des produits, une image, on était dans le luxe. Je me suis baladée dans le monde entier, au Japon, en Russie, en Afrique du Sud. On allait dans des hôtels chouettes, on rencontre le monde entier. Les choses se sont un peu corsées quand, à l'aube de mes 50 ans, j'étais donc vice-présidente Europe. J'étais dans une position de direction avec une équipe d'une cinquantaine de personnes et ma direction à moi me demandait de prendre des décisions qui choquaient mes valeurs. Revoir à la baisse des équipes qu'on venait juste d'embaucher, donc ça voulait dire virer des gens, alors que la boîte se portait très bien. Enfin, d'autre part, j'étais dans un métier dont une grande partie de l'activité était de l'éphémère. On faisait des campagnes de lancement pour du rouge à lèvres, des crèmes de soins. On était très exigeants sur l'aspect fini du programme, de ce qu'on mettait dans les boutiques, dans les vitrines, avec des matériaux luxueux, des plastiques très épais, etc. Et ça allait durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et ensuite c'était jeté. Moi, personnellement, j'avais beaucoup évolué sur les questions environnementales. Ça me dérangeait qu'on continue de faire les choses de façon aussi peu précautionneuse et de pas du tout s'en occuper. Et puis, c'est un truc, moi, qui a commencé à plus m'aller à un moment donné, qui est cette logique de croissance, en fait. C'est-à-dire de devoir en faire toujours davantage, produire plus, consommer plus. Et en fait, c'est jamais assez. Pourquoi ? Pour vendre davantage de trucs. Je me sentais plus à mon aise. J'avais l'impression de plus y croire du tout. Pour moi, la bascule, ça a été quand l'entreprise a proposé un plan de départ volontaire. C'est-à-dire que les volontaires, c'était tel poste, tel service et telle personne. En fait, on aimerait bien qu'il y ait un tel qui lève la main. Et en fait, j'ai réalisé que je faisais partie des gens que l'entreprise souhaitait voir lever la main. Et ça a été une énorme déception. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal de me sentir si peu considérée. Après avoir donné 27 ans d'efforts et beaucoup de travail, et puis j'avais un lien affectif assez fort avec l'entreprise. Et ce qui est fou dans le côté brutal, violent, c'est que 5 minutes avant, vous étiez indispensable, on présentait des plans en co-direction, on y croyait, quoi. Et 5 minutes après, t'es plus nécessaire. Ça, c'est ça la violence. Je me suis sentie trahi dans la confiance que moi j'avais mis dans la boîte et dans tout ce que j'avais pu donner. Il y avait un mélange de colère, de tristesse. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré pendant toute la journée. En fait, j'allais arrêter 27 ans de boîte. Donc voilà, j'ai 50 ans, j'ai plus de boulot, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, et je prends quand même un peu de temps de réflexion. Et puis il y a ce truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps, qui est ce moulin avant, qui est un moulin familial, qui a été en partie restauré par mes parents, à partir d'une ruine, qui fonctionne. J'ai toujours un lien très fort avec mes racines angevines. Parce que dans mon enfance, on passait 4 mois par an chez mes grands-parents et on y faisait les moissons, les foins, les semis. Enfin, j'ai participé en fait à la vie de la ferme en tant que gamine. En fait, petit à petit arrive le fait que je veux finir de restaurer le moulin, que pour pas qu'il continue de s'abîmer, il faut qu'il tourne comme un outil et donc il faudrait être capable d'être meunière. Ok, donc pour être meunière, il faut du grain. Autour du moulin, il y a des terres qui étaient aussi à ma famille. De fil en aiguille, je me dis, en fait, le projet de refaire marcher le moulin et de devenir meunière, ça commence déjà par être un peu sérieuse au niveau agricole. Et donc, je m'inscris à l'ESA, l'École supérieure d'agriculture d'Angers, pour passer le bac pro en 1 an, le bac pro agricole. Au début, on m'a pas du tout pris au sérieux. Ma famille, mes amis. Alors, après un moment d'incrédulité, en fait, ils ont trouvé ça super. Mais quand même, le premier jour, quand je suis arrivée à l'ESA, j'ai un peu le trac, un peu en mode rentrée des classes, quoi. avec son sac à dos. Ça va être qui les autres? Ils vont avoir quelle tête? Est-ce que je suis la plus vieille? Et puis alors, le truc qui a été vraiment le choc, c'était le premier cours. C'était un cours d'agro-machinisme. Et il nous fait un cours sur le lien tracteur-engin. Et il commence à nous décrire à quoi servent toutes les tailles de clés. La clé de 12, la clé de 36, la clé de... chiffre après chiffre. Et là, je me suis dit, oh punaise, ça va être difficile. Il va falloir que je m'y mette vraiment, quoi. J'avais pas envisagé l'agro-machiniste, c'était dans des détails hyper précis. Donc c'était un peu étrange. Voilà, moi j'étais hyper heureuse. J'avais l'impression d'apprendre des choses fondamentales, essentielles, qui fabriquent la vie, qui servent la terre. Enfin, c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important qu'un cours de marketing que j'avais pu avoir. Je pense que ça avait un sens total, quoi. J'étais là où je devais être. Quand j'ai eu les résultats, j'étais au moulin, face à mon petit écran de téléphone. Donc il n'y a pas la même ambiance que quand j'avais 17 ans ou 18 ans devant le tableau des résultats avec tous les copains autour. J'étais très heureuse, mais je voyais ma note. Et en fait, comme j'avais cette note modeste, on va dire 12,7 ou 13,2, je ne me souviens même plus, je me suis dit, ah tiens, ils vont être déçus. Mon entourage le plus proche qui m'envoyait des messages d'encouragement et de soutien en disant « Ouais, tu vas tout déchirer, on attend la mention !» C'est tous les messages que j'avais. Mais intimement, moi, j'étais hyper contente et j'ai trouvé ça juste. C'est-à-dire que j'avais le bac déjà, mais cette note, elle reflétait ce que représentait de passer le bac en un an à 50 ans en venant d'un métier qui n'avait rien à voir. Donc c'était normal. Mais j'étais fière. Je pense que j'étais plus fière de ce bac-là, le bac agricole, que pour le bac C que j'ai eu à 18 ans. Celui-là, je l'avais vraiment choisi. Et puis, je savais aussi, maintenant, on allait me prendre au sérieux, grâce au bac. Mais la voie que je suis en train de prendre, c'est pas du tout une voie facile. Je me prépare à diminuer mes revenus de façon assez conséquente. J'ai pas un mari, j'ai pas un héritage... Ça va être un boulot très physique. Et j'ai 50 piges, voilà, j'ai un corps aussi de cet âge-là. Donc, une fois que j'y serai, ce ne sera pas du luxe, quoi. De temps en temps, je me pose encore des questions. Et puis, je suis là-bas et les doutes, ils s'évaporent. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie.
C'était Passe ton bac senior, un reportage de Sophie Simoneau réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci aux équipes du DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires de Brest et de Valenciennes, à Annabelle Grand, à Gilbert Cariou, à Christophe Roland, ainsi qu'au lycée municipal adulte de Paris. C'est Jeanne Copet, la TAPRO des pieds sur terre, et Justine Calais, notre stagiaire.